This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Erbil, au Kurdistan irakien, où comment la justice irakienne tente de redonner une identité aux victimes de Daesh. On évoquera également le sort de ces millions d'enfants qui grandissent aujourd'hui dans des zones et pays touchés par des conflits. Grande campagne à l'initiative de l'UNICEF. 18h55, l'édito de Vincent Giret sur les Pays-Bas au secours des associations américaines pro-IVG. Mais d'abord, ces villes où respirer, simplement respirer, vous met en danger.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
Le chiffre donne le vertige. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est directement responsable de 7 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. C'est désormais le premier risque environnemental de santé publique. Usines, voitures, feux de cheminée, engrais et pesticides, fours à foyer ouverts. Les sources de pollution de l'air sont innombrables, mais les conséquences identiques. Un air irrespirable ou presque à Pékin, Delhi, Mexico, Athènes ou Sao Paulo. Et la liste, bien sûr, est loin d'être exhaustive. Alors que faire pour se protéger et surtout pour lutter contre les causes elles-mêmes? Eh bien, on en parle ce soir avec deux grands spécialistes. Le climatologue Guy Brasseur, chimiste de l'atmosphère à l'Institut Max Planck de Hambourg et au National Center for Atmospheric Research. C'est à Boulder, dans le Colorado, où vous vous trouvez. Bonsoir, ou plutôt bonjour pour vous, Guy Brasseur.
Oui, bonjour, bonsoir.
8 heures de moins chez vous aux États-Unis dans le Colorado. Et ici, en studio, je salue Rémi Slama. Bonsoir.
Bonsoir.
Épidémiologiste à l'INSERM, mais également président du Conseil scientifique du Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Bon alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, faire un peu de pédagogie, Guy Brasseur, j'en ai déjà cité quelques-unes, mais quelles sont aujourd'hui les villes les plus polluées de la planète ?
Les villes les plus polluées sont certainement les villes asiatiques, la Chine, en particulier Pékin. La Nouvelle-Delhi est aussi très très polluée. Toutes les villes qui connaissent ce développement économique et cette agglomération de population en Asie sont en véritable danger, une source de danger de santé publique pour des millions, des centaines de millions de personnes. Mais il faut aussi revoir qu'aujourd'hui, d'autres villes sur d'autres continents commencent à être très polluées, en particulier en Afrique. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les épisodes de pollution, on les trouve aussi de temps en temps en Europe. Paris a connu beaucoup d'épisodes de pollution ces derniers temps, Londres aussi. Et alors, enfin, le continent américain. Los Angeles reste pollué à l'ozone de temps en temps, il dépasse les normes, mais des villes comme Mexico City, Sao Paulo ou Santiago au Chili sont des villes évidemment qui sont devenues très polluées. Et comme la population est très abondante dans ces villes, eh bien ce sont des millions, des centaines de millions de gens qui sont touchés. On dit aujourd'hui que 300 millions d'enfants respirent de l'air toxique, c'est en tout cas ce que dit l'UNICEF.
Alors avant de voir toutes les conséquences, encore une question, Guy Brasseur, toujours dans cet esprit de pédagogie. Quelles sont les principales sources de pollution et sont-elles différentes d'une ville à l'autre, dans celles que vous venez d'évoquer?
Oui, il y a en fait deux grands types d'événements de pollution. Il y a d'abord les particules fines, c'est un type de pollution que l'on connaît depuis longtemps. Les épisodes de pollution à Londres dans les années 50 étaient le résultat de la combustion du charbon. Eh bien, en Chine, aujourd'hui, on brûle beaucoup de charbon et on a toujours des événements très très marqués qui sont des événements de particules essentiellement. Et ces particules peuvent avoir des compositions chimiques différentes d'une ville à l'autre. Ça dépend des émissions, évidemment. Il y a alors l'autre type de pollution qui est la pollution à l'ozone. Alors ça, c'est une pollution d'été essentiellement, parce qu'il faut du soleil pour produire de l'ozone au niveau du sol, et c'est le résultat des émissions d'oxyde d'azote essentiellement, d'hydrocarbures, donc finalement aussi le résultat de la combustion. Et là, ce sont des villes comme Los Angeles ou d'autres villes en Europe qui sont particulièrement touchées. Tous ces types de pollution ont un impact très important sur la santé, comme nous l'entendrons dans quelques instants.
Eh ben, dès maintenant, je me tourne vers vous, Rémi Slama. Selon l'OMS, on le disait, la pollution de l'air est donc responsable de 7 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. D'abord, décès prématurés, ça veut dire quoi ?
décès, en fait, tout décès est prématuré. Hein, comme on finira tous par mourir, de toute façon, ça veut dire 7,3 millions de décès.
C'est l'expression de l'OMS, décès prématuré. C'est l'espérance de vie qui est raccourcie.
Voilà. L'espérance de vie est raccourcie. Dans un pays comme la France, c'est probablement une diminution de 9 mois d'espérance de vie en moyenne, jusqu'à 2 ans dans des grandes villes comme Paris. Donc c'est une pollution qui va...
2 ans à Paris ?
Oui. C'est l'estimation de Santé publique France de l'année dernière.
Parce qu'on parle de 3 ans pour des lits, on se dit finalement l'écart n'est pas si gigantesque que cela.
Oui, alors là, je connais pas les données sur Delhi. Effectivement, les niveaux sont quand même beaucoup plus faibles à Paris qu'à Delhi.
Concrètement, et pardonnez-moi la tonalité de cette question, mais de quoi meurt-on? Quelles sont les pathologies directement liées à cette pollution atmosphérique?
L'essentiel des décès, les 4/5, c'est des décès par problème cardiovasculaire. Donc infarctus, accident vasculaire cérébral. La pollution va aussi causer des problèmes sur le rythme cardiaque. Le dernier 1/5 des décès, ce sont des problèmes respiratoires, pneumonie, bronchopneumopathie chronique obstructive et cancer du poumon.
Guy Brasseur nous donnait les différents types de pollution, justement, dans ce que nous respirons. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Les particules fines, l'ozone, le dioxyde d'azote? Ou c'est le cocktail, finalement, de tout cela?
Disons qu'on a réussi au cours des précédentes décennies à se débarrasser de certains problèmes très importants comme le plomb qui était très présent dans l'air du fait de l'essence au plomb. Et donc c'est vrai que les particules fines sont pour nous, en termes d'impact sanitaire, probablement le polluant le plus préoccupant aujourd'hui pour ce qui est de la population générale. Les oxydes d'azote et l'ozone aussi sont préoccupants.
On va voir comment se protéger, mais j'aimerais qu'on fasse une première halte en Inde, on l'évoquait. Alors l'Inde, on le sait, est l'un des pays qui connaît la plus forte croissance économique au monde, et croissance qui se fait au prix d'une augmentation constante de la pollution, à tel point que le pays est en train de rattraper la Chine, avec près d'1,2 million de décès prématurés, toujours cette expression de l'OMS, par an, et en cause essentiellement les particules fines et l'ozone. Illustration donc à New Delhi, la capitale, 20 millions d'habitants, 9 millions de véhicules. Reportage signé Sébastien Farcy.
En novembre dernier, pendant la fête des Lumières, les traditionnels feux d'artifice et pétards ont enfumé New Delhi pendant 4 jours. Le problème, c'est qu'en même temps arrivaient les autres fumées des feux agricoles des régions voisines et que les températures ont chuté, ce qui a emprisonné toutes ces particules pour créer un cocktail des plus toxiques. La concentration en particules fines a alors dépassé les 700 microns par mètre cube, soit 35 fois la limite fixée par l'OMS et un record inquiétant pour New Delhi. Le pédiatre Shekhar Vashist a alors vu une vague d'enfants arriver dans sa clinique du sud de New Delhi avec de sérieux problèmes respiratoires.
J'ai constaté beaucoup de bronchites qui causent un resserrement de la poitrine et des difficultés à respirer, puis de la fièvre. En gros, des infections générales des voies respiratoires. Les enfants ont des voies respiratoires plus fines et s'ils sont exposés à cette pollution, cela entraîne des problèmes chroniques, de l'asthme, des rhinites allergiques, de la toux récurrente. Certains développent des problèmes aux yeux comme des conjonctivites. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quasiment toutes les maisons ont des aérosols pour inhaler des médicaments qui ouvrent les bronches.
Une étude menée en 2015 a montré que 40% des enfants de la capitale indienne souffraient déjà de déficience respiratoire, comme ce lycéen d'une quinzaine d'années gêné par le smog de l'hiver.
J'ai parfois de l'asthme pendant la nuit, surtout quand la saison change et je dois souvent prendre du sirop ou des médicaments pour calmer ma toux.
À New Delhi, la concentration en particules fines est aujourd'hui bien plus élevée qu'à Pékin, avec deux origines majeures. Les poussières d'abord, qui décollent du désert voisin ou des milliers de chantiers de construction de la capitale. Et deuxième cause, les 9 millions de véhicules enregistrés dans la mégapole, dont beaucoup roulent encore au diesel. Le gouvernement a commencé à réagir depuis 2 ans en imposant ponctuellement une circulation alternée et surtout en fermant récemment la dernière centrale à charbon de la région de Delhi. Les autorités viennent maintenant de publier le premier plan de réponse d'urgence en cas de pic de pollution et sont en train de développer une stratégie à long terme. Le plus dur maintenant sera d'appliquer ces recommandations, estime Anumita Roy Chowdhury, responsable de ce dossier au Centre pour la Science et l'Environnement.
L'année dernière, la municipalité a cessé tous ses efforts après l'hiver. Mais cette année, nous devons poursuivre sur cet élan qui est en train de naître, afin de ne pas souffrir d'un nouveau smog lors de l'hiver prochain. Donc, quand la stratégie à long terme sera prête, ils devront s'assurer qu'elle sera mise en place à une date précise.
Selon les derniers chiffres publiés par l'OMS en mai dernier, l'Inde abrite 10 des 20 villes les plus polluées au monde.
Reportage à Delhi, signé Sébastien Farcy. Que vous inspire ce que vous venez d'entendre, Guy Brasseur, sans mauvais jeu de mots ?
Eh bien, d'abord que c'est un problème important en Inde, mais aussi dans d'autres pays du monde. Je pense que c'est un problème qui n'attire pas suffisamment l'attention des responsables politiques. Il y a bien quelques mesures qui sont prises ici et là. Mais en réalité, le problème de la pollution, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un des problèmes majeurs qui touche les gens aujourd'hui. Le climat est important aussi comme problème de l'environnement, mais c'est un problème qui va nous toucher à long terme. Aujourd'hui, nous devons régler le problème de la pollution. Et en fait, nous avons la connaissance et aussi les moyens pour le régler si l'on prenait les mesures adéquates. Je note que on parle très peu dans les cercles politiques des mesures à prendre, et effectivement, il y a chaque année des millions de personnes qui meurent prématurément, et ce ne sont pas que les vieilles personnes qui meurent, ce sont aussi des personnes jeunes qui sont atteintes d'un certain nombre de maladies. Donc, je dis pour moi qu'il faut véritablement un énorme programme international, un petit peu à l'image de ce qu'on fait pour le changement climatique, qui se mette en œuvre pour prendre les mesures et pour aider les pays qui ont du mal, pour des raisons économiques, à prendre les mesures. J'ajoute que les problèmes de santé sont évidemment importants, mais qu'il y en a d'autres qui sont liés à la pollution, et notamment la réduction de l'efficacité biologique pour notamment la formation du blé, etc., qui peuvent nourrir une bonne partie de la population. Donc c'est un problème qui touche aussi l'économie des pays.
On va s'arrêter, Guy Brasseur, sur les mesures à prendre, évidemment. Mais Rémi Slama, j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur ce chiffre qu'on a entendu dans le reportage. 40% des enfants de Delhi souffrent d'insuffisance respiratoire. C'est absolument énorme. Est-ce que les enfants sont les premières victimes de la pollution de l'air ?
En termes de mortalité, heureusement non, mais c'est sûr qu'ils payent un lourd tribut. Ils ont des poumons qui sont particulièrement sensibles, un débit respiratoire élevé, sans parler chez nous des bébés dans les poussettes, pas très loin des gaz d'échappement. Donc il y a effectivement des effets de cette pollution sur les crises d'asthme, le développement de l'asthme. On se rend compte aussi, nous, dans les études qu'on mène à Grenoble et ailleurs en Europe, qu'il y a des effets sur, dans le cas d'une exposition de la femme enceinte aux polluants atmosphériques, et notamment sur la croissance fœtale. Et puis des travaux récents de collègues américains suggèrent, mais c'est pas démontré avec certitude, que la pollution de l'air pendant la grossesse pourrait aussi augmenter les risques de troubles du neurodéveloppement, peut-être même de l'autisme dans l'enfance. Donc ça fait un tableau préoccupant. Mais je voudrais, si vous permettez, revenir sur la question des actions publiques qui a été évoquée par Monsieur Brasseur. Et effectivement, je crois que si la pollution de l'air et les particules c'était un virus, on aurait probablement le vaccin depuis longtemps. Si vous, sans vouloir parodier le canular radiophonique d'Orson Welles dans les années 30, permettez-moi une image. Imaginez que vous allumez votre radio favorite et que vous entendez qu'on vient de découvrir qu'il y a un nuage toxique qui est en train de se répandre sur tout le territoire français. Ce nuage proviendrait d'appareils anciens, mais encore en état de marche, qu'on a presque tous chez nous. Il est composé de petites gouttelettes, de particules et de gaz en suspension minuscules de la taille d'une bactérie ou d'un virus, qui contiennent des centaines de substances dont certaines sont cancérigènes, des métaux lourds, des particules qui créent du stress oxydatif, qui causent de l'inflammation, qui parviendraient à aller jusqu'au fond de nos poumons, dans les alvéoles, le lieu d'échange entre l'air et le sang, et qui passeraient comme ça dans la circulation sanguine et atteindraient certains organes. Ce nuage, on penserait qu'il est susceptible de tuer 8 à 900 personnes cette semaine sur tout le territoire, de causer des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers, des problèmes respiratoires, de toucher les personnes âgées, certains enfants, les personnes fragiles, mais aussi celles qui sont en bonne santé. Il clouerait des milliers de personnes au lit en les empêchant de travailler. Voilà. Imaginez que vous entendez ça. Et ben en fait, La pollution atmosphérique en France aujourd'hui, c'est ça. Alors il y a juste une chose qui n'est pas vraie, c'est que ce n'est pas uniquement cette semaine et que ce n'est pas nouveau. C'est que ça se répète chaque semaine depuis des années.
Il faut arrêter de tout mettre sur les pics de pollution. La pollution, elle est là tout le temps. Certes avec des pics, mais elle est là tout le temps.
Exactement. Le problème est vraiment sur le niveau de fond de pollution et le fait que dans une ville comme Paris, où la plupart des grandes agglomérations, on baigne dans une soupe de polluants avec une concentration de 15 à 20 microgrammes par mètre cube de particules fines. C'est beaucoup moins que dans les pays comme l'Inde, mais ça reste majeur. C'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans beaucoup de villes américaines, notamment.
Et Guy Brasseur, sur les mesures à prendre du côté des pouvoirs publics, et sans jouer l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas un luxe de pays riches que de pouvoir vraiment s'attaquer aux sources de la pollution ?
Écoutez, si vous voyez ce qui se passe en Chine et en Inde, ce n'est certainement pas un luxe de pays riches. En Europe, évidemment, comme on vient d'entendre, la pollution de fond reste un problème important. Alors moi, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a d'une part des aspects à long terme. Il faut réduire les sources de pollution, et ces sources, c'est des différentes formes de combustion, par exemple, c'est l'activité industrielle. Mais c'est aussi l'agriculture. On parle très peu de la pollution qui est engendrée par des activités agricoles.
Oui, engrais et pesticides, oui.
Les pesticides en particulier, l'ammoniac est par exemple une source de particules aussi très importante. Donc il faut que l'on regarde les émissions, que l'on comprenne bien les origines des émissions et qu'on trouve des moyens alternatifs pour continuer à produire l'énergie et à en particulier à développer la société sans pour autant faire ses rejets. Il y a aussi des effets ou des mesures à plus court terme. Évidemment, il y a la pollution de fond, mais il y a les pics de pollution qui sont tout de même très désagréables et dangereux pour la santé. Et donc là, je crois qu'un système de prévision de la pollution devrait être mis en place et en tout cas pris beaucoup plus au sérieux, car il y a bien sûr des efforts de prédiction à court terme de la pollution. Elle devrait être pris au sérieux et les mesures devraient être prises pour éviter justement quelques jours auparavant, quand la prédiction est disponible, que les sources de ces pollutions continuent à opérer pendant les jours où la météorologie est telle que les polluants vont rester confinés près de la surface de la Terre au-dessus des villes. Donc là, je crois qu'il faut aussi que les pouvoirs publics développent ensemble, à l'échelle internationale, mais aussi au niveau national et régional, des politiques efficaces.
Mais en matière de politique anti-pollution, Guy Brasseur, on a parfois l'impression de marcher sur la tête. Je prends juste l'exemple de la Chine. Le gouvernement a annoncé qu'il voulait quadrupler le nombre de véhicules électriques d'ici 5 à 10 ans. Or, la majeure partie de l'électricité consommée reste produite par des centrales à charbon.
Oui, la Chine a évidemment le problème d'une croissance importante, d'une part, la nécessité donc d'amener de l'électricité en particulier à toutes les activités qui se déroulent dans ce pays, et d'autre part, cette volonté de réduire les effets des émissions, le CO2 aussi d'ailleurs. Et donc la Chine est prise entre deux feux, d'une part sa croissance, d'autre part sa volonté qui est réelle et qui est assez efficace d'ailleurs, qui consiste à prendre un certain nombre de mesures. Si vous allez aujourd'hui à Pékin, il n'y a plus de motos à essence, ce sont toutes des motos électriques. Les bus ont été transformés pour être beaucoup moins polluants. Et nous voyons d'ailleurs sur les photos de satellite que les niveaux, par exemple, d'oxyde d'azote, qui sont un des polluants qui génèrent l'ozone et les particules, est en baisse aujourd'hui en Chine. Donc les premiers efforts commencent à se faire sentir, mais il faut continuer, il faut que, en particulier, on commence à transformer les centrales au charbon vers d'autres formes d'énergie. Cela se fait déjà en Chine, mais probablement trop lentement.
Rémi Slama, aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Oui, moi je voudrais insister sur le fait que je pense que c'est vraiment les mesures de fond et les mesures pérennes qui sont importantes. On voit bien, si on explique la veille pour le lendemain aux automobilistes qui ne peuvent pas utiliser leur véhicule, c'est pas facile pour eux, autant qu'ils sachent que leur véhicule est trop ancien et que peut-être il faudrait qu'ils pensent à utiliser un autre moyen de transport. Pour rester en Asie, on peut citer aussi l'exemple de Tokyo, une métropole de 13 millions d'habitants. Eh bien, là, le gouverneur de la métropole de Tokyo, M. Ishihara, en 1999, a lancé une grande campagne, non au diesel, c'est comme ça qu'il l'a appelé, mais en fait, ils se sont appuyés sur un grand nombre de mesures. Là-bas, tous les taxis roulent au GPL, il y a effectivement plus de transport avec du diesel. Ils ont le projet de planter 500 000 arbres, parce que l'espace qu'on gagne éventuellement sur la voiture, ça permet de le libérer pour le bien-être de chacun et de créer des espaces verts qui, en plus, sont bénéfiques du point de vue aussi de la limitation.
Absorbent aussi une partie de la pollution.
Exactement. Enfin, surtout des gaz à effet de serre, en l'occurrence. Pas de la pollution par les particules. Il y a eu des aides aux entreprises et on est dans une ville là-bas où il y a le rail est maintenant le premier moyen de transport et pas la voiture.
Bah écoutez, je crois qu'on va refaire une deuxième émission puisque ça y est, là, on est arrivé à son terme. On n'a pas pu poser toutes les questions. Merci infiniment, Rémi Slama, épidémiologiste à l'INSERM à Grenoble. Et merci infiniment Guy Brasseur en direct de Boulder dans le Colorado où vous travaillez donc comme climatologue au National Center for Atmospheric Research. Dans un instant, on partira en Irak. Mais d'abord, The Meters Come Together. Together, the Meters.
30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde à 18h39 et avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Michael.
Alors direction l'Irak pour un long format consacré à la vie après Daesh pour les personnes qui sont parvenues à sortir de Mossoul, Olivier.
Elles se sont évadées ou ont été libérées des mains djihadistes après avoir subi pendant plus de 2 ans la loi de cette organisation terroriste. Ces personnes seules, Michael, ces familles, ces enfants doivent aujourd'hui retrouver une place dans la société irakienne dont les autorités ne reconnaissent pas les certificats de naissance ou de mariage établis par Daesh. Bonsoir Mathilde Dehimi.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes allé à la rencontre de quelques-uns de ces civils dans la région de Mossoul. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à tenter d'obtenir de nouveaux papiers, ne serait-ce que pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école ou d'accéder aux soins.
C'est une petite cahute dans le camp de Razer, à 30 km à l'est de Mossoul. Cet homme prend rendez-vous. Des juristes sont là pour aider ceux qui viennent de fuir des zones contrôlées par Daesh. Certains hommes qui ont pris la fuite ont dû laisser leurs papiers aux différents points de contrôle sur la route. Les juristes tentent de passer les récupérer. Les familles qui font la queue tendent souvent un papier comme celui-ci.
Regardez, il y a écrit « État islamique, centre de santé de la province de Ninive ».
Un tampon avec l'emblème du drapeau mortifère noir et blanc. C'est un certificat de naissance d'une fillette née en avril dernier. Les autorités irakiennes ne reconnaissent aucun papier signé Daesh, mais celui-ci pose un autre problème. problème. La mère de la fillette n'a que 15 ans, illégale aux yeux de la loi irakienne. Le mariage n'aurait jamais dû être prononcé, ni la naissance. Il faudra donc rédiger une demande de dérogation. Dans une tente un peu plus loin, Isra Ali montre fièrement la carte d'identité temporaire irakienne de son fils de 2 ans. Elle a 8 enfants.
Mon fils est né à l'hôpital. Du coup, il avait une déclaration officielle de Daesh avec écrit État islamique dessus. Ils nous ont demandé de revenir pour lui faire de vrais papiers d'identité, mais on ne l'a jamais fait. On savait qu'on aurait un tampon Daesh dessus et on avait peur qu'ils en profitent pour nous changer les cartes d'identité de toute la famille.
Des papiers qui ne sont pourtant que temporaires, hein, Mathilde.
L'administration irakienne ne veut rien précipiter. Il faut vérifier les registres dans des zones à peine libérées. Elle craint aussi que certains parents en profitent pour vieillir leurs filles et les marier ainsi plus vite. Le juge Brahim a installé son bureau, délocalisé exceptionnellement à l'intérieur du camp. On l'entend ici poser des questions à un jeune couple marié récemment à Mossoul sous Daesh. Il a convoqué le couple et leurs témoins, les auditionne avant de donner un dernier coup de tampon.
Non, il ne s'agit pas juste de signer de nouveaux papiers et de remplacer ceux de Daesh. Je dois d'abord enregistrer la demande, certificat de mariage, de naissance ou un dépôt de plainte pour destruction de maison par exemple. Puis convoquer des témoins, trouver les registres ou faire ouvrir une enquête au tribunal. Puis je peux signer des papiers temporaires.
Quand on lui demande si certaines plaintes pourraient servir à terme à la justice internationale, si un jour il y a un procès à la CPI pour des membres de Daesh, il suppose que oui, mais ça n'est pas l'objectif premier, dit-il.
Mais en Irak, comme ailleurs, Mathilde, la guerre ne justifie pas d'exception à la loi. Les juges irakiens restent inflexibles, c'est ça?
Eh oui, Olivier, Duralex, Sedlex, Faisal l'a appris à ses dépens.
Je veux que ma fille divorce de son mari. Il a rejoint Daesh, mais la cour refuse le divorce tant qu'il n'est pas là ou représenté par un avocat pour le défendre. Il a toujours été violent avec ma fille. Il m'a menacé plusieurs fois. Il a aussi porté plainte contre moi au tribunal de Daesh. Il leur a dit, ce gars-là, mon beau-père, c'est un espion qui renseigne les Kurdes, les Peshmerga. Ils ont cherché à me tuer plusieurs fois, tout ça parce que je demandais le divorce pour ma fille. Je suis désespéré. Je n'ai plus de maison à Mossoul. Mes deux frères ont été tués par Daesh. Je vis dans un camp. Je suis un homme désespéré, dans une situation désespérée.
Les juristes n'ont pour l'instant pas trouvé de solution à Faisal et à sa fille. Des cas comme celui-ci, on en a plein, explique-t-il. Les déplacés dans les camps se sentent bloqués un peu plus dans leur vie. La justice irakienne tente-t-elle de ne pas être débordée, alors que l'avancée de l'offensive sur Mossoul Ouest devrait multiplier les cas administratifs à régler.
Mathilde Dehimi, reportage réalisé à la périphérie de Mossoul en Irak. Merci Mathilde. Vous nous parliez notamment du sort des enfants de Mossoul nés sous Daesh. Une conférence organisée aujourd'hui à Paris par l'UNICEF et le ministère des Affaires étrangères s'est penchée plus largement sur la situation des enfants dans la guerre. Comment faire en sorte que ces enfants soient épargnés? Comment les protéger? Bonsoir Manuel Fontaine.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF. Il y a 10 ans, une première conférence sur ce thème avait déjà été organisée. 10 ans plus tard, l'état des lieux est plus qu'alarmant. Il se résume en un chiffre. 246 millions d'enfants vivent aujourd'hui dans des pays touchés par des conflits. Apparemment, la situation est loin, très loin de s'être améliorée depuis 2007.
La situation ne s'est pas forcément améliorée depuis 2007, mais il y a eu des progrès dans un certain nombre de domaines, notamment dans la question des enfants recrutés, des enfants soldats. Il en reste énormément, mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été accomplis.
On va en parler, mais 246 millions, ce chiffre, il représente quoi et de qui parle-t-on?
Alors, on parle des enfants qui vivent dans les pays dans lesquels il y a un conflit. Donc, ça ne veut pas forcément dire des enfants qui eux-mêmes sont impliqués directement dans le conflit. Le conflit peut être localisé, par exemple, dans une certaine zone du pays, mais 246 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui dans un pays dans lequel il y a un conflit.
Quelles sont les régions les plus préoccupantes, selon vous?
Alors, les régions préoccupantes, évidemment, le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, le Yémen, avec les grandes les préoccupations actuelles que l'on connaît bien. La région du lac Tchad, autour du Nigeria, mais l'impact que ça a sur le Niger, le Tchad, le Cameroun. La République centrafricaine reste évidemment une zone inquiétante. Et puis, bon, certains pays du Sahel, le Mali reste toujours aussi une zone préoccupante.
Alors, parmi ces millions d'enfants, il y a ceux qui sont, malgré eux, enrôlés dans ces conflits. Les enfants soldats, ce qu'on appelle les enfants soldats. Les groupes armés les recrutent de plus en plus, apparemment. Et pourquoi ciblent-ils particulièrement des enfants ?
Alors les enfants sont ciblés pour toute une série de raisons. D'une part, ils sont plus faciles à convaincre, ils sont plus faciles, dans certains cas ils sont enlevés, mais ils sont plus faciles à embrigader d'une manière générale. Ils accomplissent des tâches que les adultes n'ont pas forcément, sont pas forcément en mesure d'accomplir ou envie d'accomplir. Ça permet de libérer, par exemple, porter du matériel, organiser la cuisine dans certains cas, des esclaves sexuels. Donc il y a des tâches que, des soldats adultes jouent un autre rôle, mais parfois aussi on les met en première ligne, parce que quand on veut justement éviter d'envoyer ces soldats adultes et aguerris en première ligne, on envoie des enfants. Donc malheureusement, on utilise les enfants dans beaucoup de situations comme ça. Et dernièrement, notamment, on les retrouve dans des attentats suicides parce que on se méfie moins des enfants, on fait moins attention aux enfants. Et je dirais que ce qui est aussi dangereux, même dans la manière dont Daesh gère ce genre de situation, c'est que on utilise les enfants contre leur communauté, ce qui a quelque chose de très traumatisant pour une communauté et qui crée évidemment des divisions terribles.
On a une idée du nombre d'enfants soldats dans le monde.
C'est très difficile parce que beaucoup sont cachés, beaucoup sont recrutés de manière que... Bon, on sait par exemple qu'on estime qu'au Sud-Soudan, il y en a probablement 16 000, donc c'est énorme. On estime qu'en République centrafricaine, il y en a peut-être jusqu'à 10 000. Dans d'autres zones où on fait des vérifications, on sait par exemple qu'en Syrie, je crois qu'on a réussi à vérifier plus de 600 ou 700 enfants l'année dernière, mais c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Il y en a certainement beaucoup plus.
Mais est-ce que cette situation signifie que sur le terrain, les règles dictées par la Convention de Genève sont de plus en plus bafouées, de moins en moins respectées ?
Oui, probablement. Je pense qu'elles, malheureusement, elles n'ont jamais été complètement respectées. Le recrutement d'enfants, il y en a eu en Sierra Leone, il y en a eu au Libéria il y a longtemps, et ça a toujours existé, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'au-delà même du recrutement, les attaques sur les écoles, les attaques sur les centres de santé, les déplacements forcés de population, les attaques sur des villages sont de plus en plus fréquents. Et ça, c'est très inquiétant.
Les outils qui ont été mis en place il y a 10 ans, est-ce qu'ils fonctionnent ? Est-ce qu'ils doivent être amélioré? Qu'est-ce qu'il reste à améliorer?
Alors, les outils qui ont été adoptés il y a 10 ans fonctionnent. La chose, c'est qu'ils ne sont pas contraignants. Les principes de Paris, ce sont des engagements volontaires politiques que l'on demande aux États de prendre ou éventuellement à des groupes armés de prendre, de prendre les mesures qu'on estime nécessaires.
C'est-à-dire qu'on négocie avec les groupes armés pour qu'ils respectent ces principes-là.
Qu'ils respectent ces principes-là. Alors, il y a en plus, évidemment, la justice internationale qui, dans certains cas, peut être un relais très important. Donc, il y a des conventions qui existent et il y a des leaders de groupes qui ont été traînés devant les tribunaux internationaux, devant la Cour pénale internationale. Et c'est une bonne chose. Il faut clairement établir des précédents et des exemples dans ces cas.
Mais rien ne prévoit, par exemple, aujourd'hui, d'extraire ces populations-là, les mineurs, les enfants de conflits ou de zones de guerre.
Alors, on n'extrait pas tous les enfants, mais par contre, on fait, et on le fait au jour le jour, y compris dans des conflits qui ont encore lieu. On est en contact avec des groupes armés, par exemple, actuellement, au nord-est du Nigeria, on est en contact avec l'armée nigérienne pour que tous les Nigérianes, pour que tous les enfants qui ont été capturés, qui viennent des rangs de Boko Haram, nous soient remis à nous et qu'on puisse très rapidement leur donner une option de futur et d'avenir et les ramener dans leur communauté. Donc il y a un travail qui se fait même au sein d'un conflit. C'est une discussion constante. On a tous mené des négociations avec des groupes armés ou avec des gouvernements parce que, encore une fois, les enfants doivent être relâchés de manière inconditionnelle et immédiate.
Mais est-ce que des contacts avec Boko Haram ou avec Daesh existent, par exemple ?
Ces contacts-là sont beaucoup plus difficiles. Ce sont des groupes qui n'ont pas une vraie volonté d'obtenir un accord politique quelconque. Donc, la plupart de ces enfants-là, on les récupère plutôt quand ils ont été faits prisonniers ou quand ils se sont échappés eux-mêmes. Et à ce moment-là, on les prend en charge pour leur donner une deuxième chance. Dans d'autres cas, il y a des contacts qui ont lieu.
Vous parlez de traumatisme psychologique. Est-ce qu'on peut penser que ces enfants qui ont vécu de telles expériences peuvent retrouver une vie normale, entre guillemets ?
Absolument. Alors d'abord, chaque enfant a un parcours différent. Mais mon expérience et l'expérience de tous les praticiens de terrain, c'est qu'on arrive à sortir ces enfants de ces situations dans la grande majorité. Et non seulement ça, mais on s'aperçoit avec le recul que beaucoup de ces enfants se transforment dans des membres assez positifs de leur famille, de leur communauté, si on leur donne cette chance-là. Et certains deviennent des activistes. À la conférence aujourd'hui, on avait deux jeunes, un qui vient de Colombie, d'autres de Sierra Leone, qui se sont transformés en activistes, qui sont engagés et qui eux-mêmes, un était au sein des FARC, un autre avait été recruté par un groupe armé en Sierra Leone. Ils ont eu des moments très difficiles, mais ils ont été capables de surpasser et de dépasser ça. On arrive en réalité non seulement à récupérer les enfants, mais à en faire des membres actifs et positifs de leur communauté.
Merci à vous, Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF. Ce chiffre, enfin pour conclure, Michael, depuis 2010, chaque mois, plus de 500 enfants soldats sont exfiltrés des groupes armés qui les avaient enrôlés.
Olivier Poujade, merci et à demain.
Vous étiez invité ?
Ah oui.
Un jour dans le monde.
C'est joli ici, j'aime beaucoup la décoration.
Alors on s'assied tranquillement et on apprécie le suspense.
Sur France Inter.
Et l'on vous emmène maintenant dans une expo exceptionnelle. C'est à Paris et on n'avait pas vu ça depuis 50 ans en France. À partir de demain, le musée du Louvre va présenter 12 chefs-d'œuvre de celui qu'on surnomme le maître de Delphes. Alors si je vous dis la dentelière, le géographe, la laitière, vous me répondez ? Vermeer, 12 toiles du maître hollandais du XVIIe siècle sur les 36 tableaux existants. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir Michael.
Vermeer et les maîtres de la peinture de genre, c'est le titre de cette exposition qui casse quelques clichés sur Vermeer.
Oui, déjà je vous rassure, le premier cliché c'est que ce n'est pas de la faute de la laitière si on s'est goinfré de tonnes de yaourt. Mais surtout, deuxième cliché, Vermeer, que l'on a surnommé le Sphinx de Delft, n'était pas du tout un artiste solitaire, isolé. À l'époque de l'âge d'or, de la peinture hollandaise. Il faut dire qu'aux Pays-Bas, il y a une effervescence artistique complètement dingue. Les riches bourgeois passent commande à des artistes qui rivalisent de talent. Et l'exposition nous montre que Vermeer a complètement baigné dans cette effervescence.
Sauf que la jeune fille et la perle n'est pas venue se balader à Paris.
Eh oui, la Joconde du Nord est beaucoup trop fragile. Elle est interdite de voyage. Mais vous l'avez dit, la laitière est bien là, la dentelière, le géographe. On retient son souffle devant le mystère qui émane de ses visages. Surtout cette lumière qui habille le sang. Et c'est ce qui fait que Vermeer a quelque chose de plus que ses contemporains. C'est ce que nous explique Blaise Ducot, grand amoureux de la laitière et commissaire de l'expo.
Cette exposition prouve que son art se distingue de celui des autres d'une façon très particulière. Il est tout en retenue, tout en pudeur et en majesté. Beaucoup de ses contemporains, les autres peintres, empilent. C'est toujours plus beau, plus riche. Lui, il enlève, il est pur. Du coup, il y a du vide. Et ce vide spatial, il y met de la lumière, qui est peut-être son vrai sujet, et il y met du temps. Il a un côté universel. Ce qui l'intéresse, c'est une forme de psychologie. Ce n'est pas simplement une jeune fille qui fait de la dentelle. Ce n'est pas simplement une laitière en train de préparer du pain perdu. C'est une reine, c'est quelqu'un qui est toute féminité, toute grâce, toute austérité en même temps.
Comparaison et preuve de cet art de l'épure de Vermeer, elle est là, juste en face de la laitière.
En face de la laitière de Vermeer, nous avons le tableau source. Alors, une jeune femme dans sa cuisine en train de verser de l'eau dans une jatte. C'est le même geste. C'est évidemment quelque chose que Vermeer a dû voir. Et c'est tellement différent. Le tableau de Gérard Doux, il pullule de détails. C'est presque écœurant tellement il y a de détails. Rien n'est hiérarchisé. La botte de carotte et la volaille sont aussi importantes que le visage de la jeune femme. Vermeer, ça l'agace, ça l'horripile. Et donc lui, hiérarchise beaucoup. La laitière est beaucoup plus importante que le quignon de pain.
La laitière iconique Madone hypersensuelle, Michael.
Mais reste que Vermeer était tombé dans l'oubli pendant près de deux siècles. Hein.
Oui, mais c'est un historien d'art français qui l'a sauvé de l'oubli. Proust aussi a fait sa pub quand il s'extasie devant ce fameux petit mur jaune qui est dans le paysage de Delft. Et les impressionnistes aussi craquaient pour Vermeer. C'est ce que m'a expliqué Quentin Buvelot qui dirige le musée Mauritius de La Haye.
Des artistes en France, Édouard Manet par exemple, aimaient beaucoup Frans Hals et Vermeer, en particulier sa toile La Vue de Delft, où il a vu des pointillés, une technique très moderne pour l'époque. Et c'est ce que feront les Français, les impressionnistes du 19e siècle. C'est la même chose.
Et il reste encore beaucoup, beaucoup de mystères sur la technique Vermeer.
Alors Vermeer aurait travaillé avec une caméra obscura. Vous savez, c'est l'ancêtre de l'appareil photo. Rien d'étonnant en fait, car les Pays-Bas sont précurseurs en optique, ils ont découvert le microscope. Pieter Roelofs est conservateur du Rijksmuseum Amsterdam.
Je pense qu'il a fait des expériences avec une caméra obscura.
Ce n'est pas possible de peindre avec une caméra obscura parce que ça ne fonctionne que dans une pièce dans le noir. Et vous ne pouvez peindre que dans la lumière. Avec la caméra obscura, on peut juste faire des observations pour pouvoir utiliser ces expériences en peinture. Et Vermeer est le seul à en avoir fait un nouvel art de peindre.
Voilà, Vermeer au musée du Louvre, exposition jusqu'au 22 mai. Merci Isabelle Basquier.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
18h55, c'est l'édito. Bonsoir Vincent Giré du journal Le Monde.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Et ce soir, vous nous emmenez aux Pays-Bas, où la ministre du Commerce a trouvé une idée plutôt originale pour combattre Donald Trump.
Eh bien oui, Michael, vous vous souvenez forcément que deux jours après son installation à la Maison-Blanche, le nouveau président américain a pris une série de décrets, plus funestes les uns que les autres, et que l'un de ces décrets concernait l'interdiction faite aux ONG, aux associations internationales qui bénéficient de l'argent public américain, de promouvoir de quelque manière que ce soit ou de pratiquer l'avortement. Comme de nombreuses féministes, Cecil Richards, la présidente du plus grand réseau de planning familial aux États-Unis, avait immédiatement réagi en expliquant que les femmes les plus vulnérables dans le monde allait souffrir de cette décision qui va saper des années d'efforts en faveur de la santé des femmes. Cela risque même de provoquer la fermeture de cliniques dans le monde, dénonçait-elle, de même qu'une augmentation des grossesses non désirées et des avortements dangereux. Et cette américaine en appelant donc à la résistance, au combat. Eh bien, aux Pays-Bas, une femme ministre, ministre du Commerce et de la Coopération, a entendu cet appel. Liliane Ploumen, c'est son nom, 54 ans, social-démocrate. Elle appartient à un gouvernement de coalition et elle s'est confiée à l'une de nos consoeurs du New York Times. La ministre explique qu'elle est d'abord sous le choc, stupéfaite devant cette incroyable régression, alors qu'elle croyait, comme nous tous d'ailleurs, que le droit des femmes à disposer librement de leur corps, d'être maître de leur vie, de leur sexualité, était une évidence autant qu'un état de fait en 2017 dans nos démocraties.
Mais alors que peut une ministre néerlandaise du commerce contre une décision américaine, Vincent ?
Ah, Michael, je vous sens un peu dubitatif, étonné. Oui, alors, à vrai dire, ce fut aussi la réaction, la première réaction d'une partie de l'équipe et du cabinet de la ministre. L'idée était simple pourtant, créer une ONG pour lever des fonds, pour aider les associations internationales qui seront touchées par la décision de Donald Trump. La ministre donne un nom à son ONG, un nom un peu plus clair, en anglais, She Decide, elle décide, et trouve déjà 10 millions d'euros dans le budget de son ministère qu'elle veut verser sur le champ à cette ONG. Alors certains lui disent, mais attention, prudence, il s'agit quand même des États-Unis, on devrait peut-être essayer de discuter d'abord avec nos voisins européens. Karsten Chen, la ministre, balaye ses arguments d'un revers de la main. Il faut foncer, leur dit-elle en substance. Les autres nous suivront, car si nous voulons convaincre tout le monde, eh bien dans 6 mois, on y est encore bien vu. Et donc maintenant, l'ONG est lancée et l'appel aux dons relayé.
Et là, surprise, tout le monde suit.
Eh bien oui, c'est d'abord un ministre belge qui embraye immédiatement. Lui aussi veut donner de l'argent. Et mieux, il propose d'organiser en mars une conférence pour sensibiliser les esprits et recueillir des fonds. La ministre contacte ses autres collègues et en quelques jours, les ministres suédois, danois, finlandais, luxembourgeois, canadiens et même capverdiens suivent avec enthousiasme. Le projet ne s'arrête pas là. 19 pays se montrent intéressés. Déjà 30 millions d'euros ont été réunis et la ministre espère ainsi lever dans l'année 600 millions de dollars pour compenser la suppression des subventions américaines. C'est formidable, cela prouve tout simplement que la société civile, quand elle veut réagir et s'organiser, possède une puissance considérable. Cette étrange période est donc faite de régressions foudroyantes, hier impensables, mais des initiatives, des réactions, des contre-pouvoirs peuvent aussi se lever en un rien de temps et montrer leur force pour sauver des droits et des libertés acquis de haute lutte dans nos démocraties. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle.
C'est beau, Vincent Giré du journal Le Monde. Merci beaucoup. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne sur la prise en charge des victimes d'attentats, de catastrophes naturelles ou encore d'accidents dits majeurs. Un secrétariat général à l'aide aux victimes vient d'être créé. Alors, quelles sont ses prérogatives, son périmètre? Quelle aide concrète apporte-t-il aux victimes et à leurs proches? Vos questions, vos commentaires dès maintenant au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson. Et dans une poignée de secondes, le journal de 19h.